Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage connu à Genève, bien que d'une grande modestie, Metin Arditi. Bonjour Metin.
Bonjour Viviane.
Alors, vous êtes un écrivain suisse, vous êtes né à Ankara, cependant, vous êtes d'origine turque, donc très engagé dans la vie culturelle et artistique de Genève. Mais étant donné que nous sommes écoutés grâce au podcast bien à l'extérieur de nos frontières, je suis obligée de vous poser la question rituelle. Quel petit garçon étiez-vous ?
Alors, je pense qu'il faut mettre un S à votre question, parce qu'en fait, j'étais d'abord un petit garçon, donc je suis né à Ankara, mais j'ai grandi à Istanbul, donc de l'âge de 3 mois à l'âge de 7 ans, j'étais un petit garçon dans sa famille, très choyé, très aimé, très heureux, dans une Istanbul extraordinairement cosmopolite, très ouverte. Mes parents étaient tous deux des gens qui n'avaient pas fait d'études, mais chez moi à la maison, on entendait 5 langues. C'était Istanbul. Je dirais presque Constantinople. Et puis, lorsque j'ai eu 7 ans, exactement le 3 février 1952, c'est-à-dire le lendemain de mon anniversaire, ma mère m'a amené en Suisse et m'a mis, le 5 février, dans un internat où je suis resté 11 années.
Ça, c'était le choc, alors.
Alors, c'était pas tellement le choc parce que on n'a pas de point de référence. On me disait, mes parents me disaient que c'était pour mon bien. Donc, comme j'aimais beaucoup mes parents et je les respectais beaucoup, je les ai crus et j'ai bien fait de le croire. Et donc, c'était un autre monde. Donc, quand vous me posez la question, quel petit garçon ? Très tendre, pas très obéissant.
Un peu rebelle ? Mais,
non, disons, à Istanbul, je dirais très tendre, très espiègle, très rieur.
Très protégé.
Très aimé.
Très aimé.
Et alors, ensuite, en internat, extrêmement rebelle.
Ah oui.
Et ça n'a pas cessé.
Là, vous êtes devenu un autre petit garçon.
Ah oui.
Et absolument. Qu'est-ce qui a fait ce basculement ?
On est loin des bras.
On est loin des bras. Donc, il faut se défendre, voire attaquer ?
Oui, quelques jours après mon arrivée, donc on écrivait une lettre par semaine aux parents. C'était obligatoire le dimanche matin. J'avais écrit à mon père, il y a un garçon qui m'a frappé avec une règle. Et mon père m'a écrit en retour, frappe-le à ton tour. Voilà.
Une bonne leçon de vie.
C'était ça.
Alors, vous avez fait de très solides études, Metin. Très solides. Parlez-nous de ces études parce qu'elles sont extrêmement prestigieuses, aussi bien en Suisse qu'aux États-Unis.
Oui, j'ai fait des études scientifiques. Quand j'étais en internat, on avait la possibilité, c'était un internat petit, donc on avait la possibilité de suivre, si l'on le souhaitait, à la fois la section classique et la section scientifique. Moi, je mets beaucoup les deux, mais au moment de choisir des études, évidemment, j'ai beaucoup écouté mes parents, que j'aimais beaucoup, que je respectais. Et eux, qui avaient vécu la guerre en Turquie, m'ont dit « Tu dois faire ingénieur pour pouvoir gagner ta vie n'importe où. » Et pas des études de lettres ou de musique, comme peut-être...
Qui était plus attirante au départ, bien sûr.
J'aurais pu le faire. Donc, j'ai suivi l'injonction paternelle. Je suis rentré à l'école polytechnique. Je ne voulais pas faire n'importe quel domaine d'ingénierie parce qu'il y en avait qui ne me plaisaient pas. Mais j'ai choisi la physique qui avait une dimension philosophique et très abstraite. Après cela, j'ai fait un troisième cycle en génie atomique, c'est-à-dire en...
Génie atomique, ça intrigue beaucoup.
C'est la théorie et la pratique des réacteurs nucléaires. Et puis,
j'imagine que là, on peut bien gagner sa vie parce qu'il ne va pas y avoir énormément de spécialistes dans le monde.
Alors, wow, maintenant, il y en a beaucoup. Mais c'était une autre époque. C'était une époque où la Suisse pensait encore développer, comme on disait, sa propre filière de réacteurs. Donc, c'était de la recherche, en fait. Hein. C'était très créatif. Mais entre-temps, je m'étais marié. Je me suis marié à 21 ans. Et puis, j'aimais beaucoup la physique, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la recherche. Mais je n'aimais pas la vie de labo. La vie de laboratoire me semblait vraiment trop triste, trop monotone.
Pas assez de contact ?
Ah, pas assez de chahut, ça changeait trop de l'internat. Ça changeait trop de l'internat. Et donc, je suis parti avec ma femme aux États-Unis, à Stanford, où j'ai été reçu au programme MBA de la Business School. Et nous sommes restés là-bas 2 années.
Des années heureuses ?
Ah, c'était évidemment magnifique. C'était des années de grandes découvertes. C'était extraordinaire. L'école était extraordinaire. La période était extraordinaire. 68 à 70, c'est-à-dire en pleine guerre du Vietnam. Nous avons vécu à la Business School la première grève historique de la Business School et du reste qui a suivi l'université de Stanford elle-même, qui s'est mise en grève pour la première fois. On débattait dans les rues de tous les grands problèmes que soulevait la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs assez triste de voir que, après avoir tant souffert, la politique étrangère de ce pays a tellement peu appris. Ça, c'est vraiment un constat très triste.
Question d'homme, question de qualité d'homme à la tête.
Les hommes changent et la mémoire part. C'est comme ça. C'est aussi une question de civilisation. Pas seulement de culture. Il y a en Amérique beaucoup, beaucoup de culture sur l'étranger. Il y a, par exemple, précisément à Stanford, le Hoover Center, qui est un des centres mondiaux de sciences politiques. Mais la question de la culture, c'est une chose, la civilisation en est une autre. Donc voilà, j'étais là-bas, c'était formidable, avec des professeurs formidables. Puis ensuite, nous sommes rentrés en Europe.
On écoute un peu de musique, Metin. On va écouter ce que vous nous avez choisi.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec un personnage bien connu à Genève, d'une grande modestie, je le répète à chaque fois parce que Métine Arditi, vous êtes d'une grande modestie. Alors on a toujours un petit peu de mal à vous avoir, vous êtes demandé partout, vous êtes un écrivain suisse d'origine turque, vous êtes très engagé dans la vie culturelle et artistique, mais comme on le voit, vous avez fait des très solides études et vous avez eu une vie professionnelle bien remplie. J'aimerais maintenant, on vous a quitté à Stanford, j'aimerais savoir ce qu'a été votre vie professionnelle ensuite.
Alors, au fond, c'est assez simple parce que, au fond, ma vie professionnelle a suivi d'assez près le modèle de ma vie scolaire. Ma vie scolaire, c'était une école pendant 11 ans et ma vie professionnelle, à l'exception des deux premières années, lorsque j'ai quitté la business school, j'étais engagé chez McKinsey, les consultants, où j'ai eu de la chance. J'étais dans trois bureaux en 2 ans, à peu près 8 mois dans chaque, à Zurich, à Milan et à Paris. Et après, j'ai quitté, je me suis installé à mon compte et je suis resté à mon compte. C'est-à-dire que, voilà, il y avait un besoin d'indépendance qui était beaucoup plus fort que tout l'attrait que pouvait représenter une carrière dans un grand groupe, que ce soit McKinsey ou que ce soit un autre. Quand j'ai quitté McKinsey, j'étais marié, on avait un enfant, je ne savais pas ce que j'allais faire. La seule chose que je savais, c'est que je n'allais plus être, dans la mesure du possible, engagé dans un groupe.
Donc vous saviez que vous vouliez travailler de façon indépendante.
Oui.
Mais est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire ?
Alors, évidemment, sur papier, je savais. Puis, au fond, ça s'est concrétisé. J'avais fait des études scientifiques. J'avais été à Stanford, donc dans la Silicon Valley. Je suis retourné là-bas avec vraiment ma petite serviette. Et j'ai été voir les gens que je connaissais, le doyen de la business school qui était R.J. Miller, qui était l'ancien président de Ford, la compagnie d'automobile, mes anciens professeurs dont certains étaient dans les conseils des petites boîtes high-tech de la région. La Silicon Valley était ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment le berceau de nouvelles technologies. Et j'ai été frappé aux portes pour demander aux petites maisons qui n'avaient pas les moyens de s'installer d'elles-mêmes en Europe, si je pouvais les représenter dans le cadre d'accords assez complexes où on crée une société, puis on se partageait le capital, et puis ils avaient toujours la possibilité de nous racheter le cas échéant, si ça marchait bien, et où nous avions la possibilité de les obliger à nous racheter à d'autres conditions. Enfin, c'était un peu élaboré parce que j'avais pas d'argent.
Métine, là, vous étiez en train d'utiliser en quelque sorte une expérience un peu atavique de commerçant du Moyen-Orient. Racontez-nous ça, parce qu'un jour, dans une émission semblable, il y a quelques années, vous m'avez dit, si j'avais été dans le bazar d'Istanbul plus longtemps au lieu d'aller à Stanford, j'aurais gagné des années.
Vous savez, moi, ce qui me frappe toujours quand je pense à mon enfance, aux gens que j'ai croisés, à mon père, à certains de ses amis, à d'autres personnes aussi que j'ai croisées en Grèce, puisque ma femme est grecque, donc j'étais là pendant longtemps. Quand je pense à tous ces gens qui n'ont pas fait d'études, je suis épaté par leur bon sens, leur intelligence profonde, leur connaissance de la condition humaine.
Est-ce que tout ça serait effacé par des études trop sophistiquées ?
Ah, ça peut l'être, tout à
fait. Ça peut l'être ?
Ah oui, absolument.
Important ce que vous dites, parce que ça donne une chance à tous ceux qui n'ont pas la capacité de faire des études.
C'est très, très important. C'est très important. On peut prendre ça de différentes façons. Moi, je voudrais juste peut-être vous illustrer cela en disant que pour 25 ans, après que j'ai quitté Stanford, ma fille aînée, qui était née, pas là-bas, elle était née en Grèce, durant l'été qui séparait mes 2 années de Stanford. Donc, il avait passé sa première année de bébé là-bas et retourné à Stanford avec son mari, qui est psychiatre, et leurs 2 enfants, après ils en ont eu d'autres. Et son mari était nommé à l'école de médecine. Et elle s'interrogeait dans ce merveilleux campus sur ce qu'il convenait qu'elle fasse comme étude, parce qu'elle avait fait HEC ici, et puis elle avait fait un master en immobilier, qui était mon travail, qui est toujours le travail de l'entreprise familiale. Et elle me posait la question de savoir qu'est-ce qu'au fond elle pourrait étudier à Stanford pour l'aider dans son travail, dans notre travail. Et moi, je lui ai conseillé d'étudier les lettres. Parce que les lettres, c'est les humanités, et c'est la compréhension de l'autre. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un master en littérature française.
Impressionnant. La compréhension de l'autre, au fond, comme clé de la réussite.
Absolument.
Alors, cette réussite, Métine, parlez-nous-en, parce que vous avez réussi avant de pouvoir être aussi généreux que vous l'avez été dans votre vie. Il a fallu réussir.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de
chance. Est-ce que c'est pas aussi que vous avez aidé la chance? Parce que quand on est un grand ingénieur, on a peut-être un peu aidé la chance quand même.
Je ne sais pas. Vraiment, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à 40 ans, quand je me suis installé à Genève, j'avais 27 ans, donc j'ai fini Stanford à 25, 2 ans chez McKinsey, j'avais 27. Jusqu'à 40 ans, j'ai énormément travaillé. Énormément.
Voilà, ça, c'est pas seulement de la chance. Il faut dire ça.
Et je n'ai pas gagné beaucoup d'argent pendant cette période-là.
Mais vous avez beaucoup travaillé. Vous avez ensemencé le champ.
J'ai acquis le sens du travail bien fait et j'ai acquis aussi le sens de la valeur de l'argent. Et lorsque j'ai, suite à diverses circonstances, vendu mes activités alimentaires pour faire de l'immobilier, parce que l'immobilier représentait pour moi encore mieux une possibilité de travailler seul, c'était ça. C'était dans une période très faste, la deuxième partie des années 80, très très faste. Et c'est une période au terme de laquelle moi j'avais tout vendu. Parce que j'avais compris que le Père Noël ne passe pas tous les jours.
On va s'arrêter 2 minutes. On va écouter à nouveau un peu de musique, celle que vous nous avez choisie, Métine. Et on va reprendre tout à l'heure si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπολώντας τη φτωχή την καμαρά μου ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει τα όνειρά μου κι όπως σκεπτόμουν αγάπη μου που να είσαι ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταζε στα μάτια σκυφτός με έκανε αγάπη μου αδιάκοπα να κλαίω. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει. Απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταζε στα μάτια σκυφτός με έκανε αγάπη αδιάκοπα να κλαίω. ένας φίλος ήρθε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Metin Arditi. Metin Arditi, dont on a vu qu'il avait été un ingénieur de grande valeur, fait une vie professionnelle très fournie. Vous nous avez dit que vous avez énormément travaillé et que cette période de votre vie vous avait permis d'avoir le sens du travail bien fait. Donc, l'immobilier. Alors, l'immobilier, pour vous, c'est resté combien de temps? Ça a été votre métier combien de temps?
Ah, longtemps, longtemps. Mais avec des phases différentes. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans ce métier, en 85, je commençais, j'avais vraiment très peu d'argent, je n'avais pas d'expérience. Mais les choses sont allées très vite. Le marché était complètement fou. Et il est resté fou pendant plusieurs années. Et au moment où il commençait à tourner, j'ai décidé de tout vendre. Par la suite, j'ai commencé à racheter. Mais j'ai décidé de tout vendre quand il
on
était vraiment...
On est en quelle année, là, Métine?
89-90.
89-90.
Il me restait mon appartement et les bureaux que j'occupais pour mon travail. J'étais sorti de tout le reste. Ça me semblait totalement irréaliste. Les prix me semblaient irréalistes.
Donc le bon sens dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors en 88, vous avez créé la Fondation Arditi qui attribue une quinzaine de prix aux gradués de l'Université de Genève et de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et ça, ça a été le début d'une très grande activité et c'est celle pour laquelle vous êtes le plus connu à Genève. Après, vous avez fait beaucoup d'autres choses, on va en parler. Parlez-moi de cette période de votre vie.
En fait, moi, j'avais bien longtemps avant quitté la physique, quitté l'école polytechnique, j'avais fait d'autres choses, mais j'étais toujours resté dans la nostalgie de l'université et de l'enseignement. Donc, je suis retourné à l'école polytechnique comme chargé de cours en 76, en 76, alors que je commençais à travailler. Enfin, j'étais actif, mais je prenais de mon temps pour enseigner la gestion et l'économie d'entreprise au département de physique d'où je sortais. Le président de l'école, à l'époque, le professeur Cosandé, m'avait demandé de faire cela parce qu'effectivement, les physiciens qui s'occupaient de projets technologiques qui coûtaient très cher, comme par exemple des réacteurs nucléaires, n'avaient aucune idée d'économie. Lorsque mes affaires immobilières ont démarré, que ça m'a pris complètement, je n'avais plus le temps d'enseigner, mais j'ai souhaité quand même poursuivre le flirt avec l'université. Et donc, j'ai créé la Fondation Arditi.
Alors, vous avez aussi racheté un peu plus tard et offert à l'Université de Genève le cinéma Manhattan classique, qui est un monument historique.
Oui, oui, oui.
Vous avez aussi fondé les Instruments de la Paix Genève, qui favorise l'éducation musicale des enfants de Palestine et d'Israël. Vous avez fait... Donc là, vous avez élargi en quelque sorte vos intérêts.
Aujourd'hui, j'ai des activités ici, toujours dans le cadre de la Fondation Arditi, mais j'ai cette fondation, les Instruments de la Paix, et puis une autre fondation que j'ai créée qui s'appelle Fondation Arditi pour le dialogue interculturel. Et ces deux fondations sont actives en Israël et en Palestine. La première, dans l'enseignement musical, on fait beaucoup de choses, on finance des instruments. Là, je viens ce matin d'acheter une centaine de violons. On envoie des professeurs, on finance 4 postes de professeurs à plein temps. On a construit à Bethléem le premier centre qui existe en Palestine de fabrication et de réparation d'instruments à cordes. On fait beaucoup de choses.
Vous avez présidé aussi la commission de construction du musée Martin Bodmer à Colonie.
Oui,
alors
oui,
ça aussi, c'est géant, Métine. C'est géant, ça aussi.
Très, très belle expérience. Oui, oui, c'était magnifique. Et le résultat est extraordinaire.
Le résultat est extraordinaire. On vient du monde entier pour visiter le musée Martin Bodmer. Et puis en 2012, vous avez été nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté et en 2014, envoyé spécial. Alors ça consiste en quoi?
Alors, ça consiste vraiment à poursuivre et à élargir les activités que je mène déjà. C'est en quelque sorte une récompense plus qu'une mission. L'UNESCO nomme un certain nombre de personnes ambassadeurs de bonne volonté. Le titre d'envoyé spécial est beaucoup plus restreint, c'est très haut dans la hiérarchie de l'ONU. J'ai été nommé en même temps que notre ambassadeur de bonne volonté, qui est un homme formidable, qui est Forrest Whitaker, et qui fait des choses extraordinaires pour la jeunesse, pour la paix dans le monde entier. Voilà, donc nous sommes là, en quelque sorte, confortés dans nos missions, dès lors qu'elles portent les valeurs de l'UNESCO, qui est l'éducation, la culture, les sciences, et bien entendu, le dialogue pacifique.
Pour vous, aujourd'hui, c'est l'essentiel de vos activités, j'imagine ?
Ah non, l'essentiel de mon activité, c'est l'écriture.
On va y venir tout à l'heure, si vous le voulez bien.
Oui. Ça représente, disons, un tiers de mon activité, les fondations. Mais ce qui m'habite, disons, jour et nuit, c'est l'écriture.
Avant de venir à l'écriture, on va écouter un peu de musique ?
Volontiers.
Yeah.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Métine Arditi, un personnage bien connu à Genève, très engagé dans la vie culturelle et artistique de Genève, on a vu comment précédemment, ingénieur de formation, homme d'affaires et aujourd'hui une nouvelle carrière, Métine. Parlez-nous de cette carrière.
Elle n'est pas si nouvelle puisque j'ai commencé à écrire il y a 20 ans, mais j'avais déjà 50 ans. Donc ça commence à faire quand même du sens, puisque j'en suis, je crois, à mon 15e livre, quelque chose
Je crois que vous avez écrit 10 romans, 2 essais, et vous avez écrit beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, en fait,
4 essais, 2 récits et 10 romans.
10 romans, voilà, c'est ça.
Alors, comment ça se passe? Racontez-nous. D'abord, comment la vocation vous est-elle venue?
La vocation, je crois que je l'avais quand j'étais adolescent, parce que j'ai été publié à l'âge de 13 ans.
Ah oui?
Pour un conte dans un magazine français, un conte que j'avais écrit à ma mère pour Noël parce que j'avais pas d'argent pour lui faire un cadeau.
Et c'est joli ça.
J'avais un camarade de classe dont le père était représentant du groupe Hachette pour la Suisse. Mon copain de classe a vu mon conte et dit « Est-ce que je peux le montrer à mon père ?» Et son père l'a envoyé à Hélène Lazareff. La femme de Pierre Lazareff qui dirigeait
François à l'époque et elle dirigeait elle
c'est exactement.
Et donc, c'était les gens tellement en vue, tellement connectés à l'époque.
Oui. Oui. Alors elle a fait passer ça dans un de ses magazines, ça s'appelait Le Fer à Cheval et c'était les retrouvailles d'un couple qui s'était séparé, dont l'homme qui était de profession expert comptable avait offert à son ex-femme, un petit fer à cheval en or.
Vous aviez donc 13 ans?
J'avais 13 ans.
Incroyable! Et alors, votre process pour écrire, est-ce que c'est le matin très tôt? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce que c'est dans la journée? Comment ça se passe?
Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel. Je suis venu chez vous, j'avais une bonne petite demi-heure de route. Hein. Ce n'est pas moi qui conduisais, mais quand même, vous voyez...
Alors c'est dommage que nos auditeurs n'aient pas la télévision.
J'ai pris avec moi quelques pages de texte tapées, mais que je suis en train de corriger. Comme vous voyez, les corrections sont nombreuses. C'est tout le temps.
Voilà. C'est alors absolument... Je dis, Métine Arditi vient de sortir de la poche intérieure de son veston un papier. Effectivement, tout raturé.
Tout raturé.
Donc, c'est permanent.
Donc, ça veut dire que je ne sais pas écrire. Ça veut dire
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Non, les plus grands écrivains ont beaucoup raturé, on le sait.
C'est
pas ça que ça veut dire. C'est que c'est très intéressant de penser que vous êtes en train de faire un trajet. Vous ne conduisez pas, certes. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça serait très grave. Et vous écrivez pendant ce temps-là. Donc, vous arrivez à vous abstraire complètement. Vous vivez dans votre univers, en fait.
Alors... Ça, c'est vrai, et en fait, ça s'explique assez facilement, parce que plus vous êtes dans une pensée, et plus c'est facile de retrouver cette pensée si tout à coup, vous devez faire autre chose pendant un quart d'heure. Ça ne pose pas de problème. Quand j'ai commencé à écrire mes essais, j'étais pas du tout dans ce rythme, et donc j'attendais impatiemment le vendredi soir pour me remettre petit à petit dans le bain, et puis le samedi matin, je reprenais l'écriture. J'ai pas ce problème maintenant.
Vous vivez avec vos personnages ou votre personnage central?
Absolument.
Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'il interfère? Il interfère pas trop dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie d'affaires?
Alors dans la vie familiale, non, parce que j'ai une femme qui est une extraordinaire lectrice, qui m'aide beaucoup parce qu'elle lit et qui a une très grande culture. Donc là, il n'y a pas de problème. Certainement que ça pose des problèmes sur le plan de la vie amicale et aussi de la vie des affaires. Écrire prend beaucoup de temps. Et c'est même pas que ça prend du temps.
C'est plutôt la gestation qui prend du temps, non ?
Ça vous vole même pas. Ça vous vole votre temps. Vous comprenez ? On me dit, mais c'est formidable, tu es discipliné. Pas du tout. Jamais, jamais je ne
serai
capable
d'avoir
la discipline pour écrire autant que j'écris. Si j'écris autant que j'écris, c'est parce que j'en ressens la nécessité absolue.
Vous répondez à un besoin, en fait, un besoin impérieux.
Je me trouve un besoin et aussi le sentiment d'être à une tâche utile. Mes textes, quand ils arrivent au terme du processus, ce sont des histoires, ils sont lus, ça apporte quelque chose. J'en ai évidemment les échos, ça c'est très important, les échos, le dialogue.
Le retour.
Le retour des gens qui viennent aux signatures, qui me disent « j'ai tout lu, j'ai tout lu ».
C'est formidable.
Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est être très ému? Et ces gens me connaissent probablement mieux que je ne me connais moi-même. Donc j'ai le sentiment d'être à ma tâche quand j'écris.
Alors vous avez en quelque sorte une triple vie, si je puis dire. Vous avez la vie de vos fondations. Vous avez une vie d'affaires quand même, j'imagine que ça continue.
Alors j'ai beaucoup de chance parce que dans les affaires, c'est ma fille aînée dont je parlais tout à l'heure, qui a fait des études d'HEC et ensuite de lettres. C'est elle qui dirige. J'ai
D'accord.
beaucoup de chance, elle dirige ça.
Mais vous l'avez bien formé, donc en quelque sorte, c'est un juste retour des choses, Métine. Et alors aujourd'hui, donc, vous passez combien de temps en écriture par jour? Vous avez une idée?
Je pense vraiment, stylo en main, 30 à 40 heures par semaine.
Ah,
stylo
oui.
en main. Mais j'y suis sans cesse avec
c'est
des notes.
C'est un plein temps pour les Français, ça.
Mais j'y suis sans cesse. Je note et surtout, je pense beaucoup à mes personnages. Je suis constamment, comme vous savez, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce livre dont certains esprits se moquent un peu, ils le prennent
oh non,
de haut.
Oh non, c'est tellement beau. C'est un chef-d'œuvre absolu.
Un chef-d'œuvre de justesse aussi. Lorsque Le Petit Prince veut amadouer le renard, dit « Comment est-ce que je peux être ton ami ?» Et le renard lui dit « Mais c'est simple, tu viens là et tu t'assieds, tu attends. » Ça, c'est tellement profond, c'est tellement ce qu'on ne fait pas dans la vie. On ne s'arrête pas, on n'écoute pas, on est pressé, on est précipité, on juge. Dans l'écriture, si vous faites ça, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de roman. Ça devient ennuyeux, Écrire, c'est faire ce qu'on ne fait pas dans la vie, c'est-à-dire s'arrêter, écouter, ne pas juger, essayer de comprendre.
On va écouter un peu de musique.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte,
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine, avec Metin Arditi, dont nous avons vu qu'il est ingénieur, homme d'affaires, extrêmement engagé dans la vie culturelle et artistique de Genève, et puis écrivain depuis plus de 20 ans. Et vous venez, mon cher Metin, de sortir un nouveau livre, le 15e, 16e, on ne les compte plus, qui s'appelle « Juliette dans son bain ». Alors, racontez-nous.
Alors, « Juliette dans son bain », c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Candiotis, un homme né à Smyrne, qui a grandi d'abord à Marseille, puis dans un internat suisse, qui a fait une immense fortune dans l'immobilier, qui est un grand mécène, grand donateur de tableaux, qui habite Paris, et dont, au début du récit, la fille unique, Lara, âgée de 17 ans, lui, il est relativement âgé pour avoir une fille de 17 ans, il a 65 ans, son deuxième mariage, cette fille est enlevée.
Ça commence comme ça ?
Ça commence par une interview sur le plateau d'une grande chaîne de télévision où cet homme, qui ne donne jamais d'interview, a fait demander par sa directrice générale à être reçu sur ce plateau à condition qu'on montre deux tableaux. Ces deux tableaux ont le même nom, Juliette dans son bain. L'un est de Picasso, l'autre de Braque. L'un peint à la manière cubiste, l'autre à la manière fauve. C'est-à-dire qu'ils donnent tous les deux d'une même réalité, d'une même Juliette dans son bain, une image complètement différente.
Et il y a une bonne raison pour...
Alors il y a une raison, voilà. Parce que l'un de ces tableaux, celui qui est de Braque, c'est-à-dire qui est figuratif, lui rappelle un amour ancien qu'il a perdu de vue et qu'il voudrait raviver.
Et c'est pour ça qu'il est sur le plateau de télévision.
C'est uniquement pour ça. En même temps, cet homme, dont la fille est enlevée ce soir-là, reçoit de la part des ravisseurs, non pas une demande de rançon, d'argent, mais une exigence, c'est qu'il fasse publier à un rythme d'environ une fois chaque semaine, 10 récits préparés par les ravisseurs, qui chacun décrive un épisode de sa vie et montre qu'au lieu d'être l'homme que tout le monde loue et remercie, montre que cet homme, au fond, serait une crapule.
La face cachée.
Tout le livre, en fait, permet au lecteur de lire les lettres des ravisseurs qui sont publiées dans les grands journaux, qui sont, je le précise, absolument exactes. Ensuite, de lire les explications de Candiotis, mon personnage, à la police, non pas à la presse, mais à la police. Ces explications sont, elles aussi, parfaitement exactes. Où se trouve la vérité ? C'est un peu, si vous voulez, ce que symbolisent ces deux tableaux, Juliette dans son bain. Où est la vérité ? Quelle est la vérité de cet homme ?
Qu'est-ce que vous avez voulu prouver par... je dirais que c'est très exactement une satire sociale quand même.
C'est une satire sociale. Moi, je crois que je n'ai rien voulu prouver. J'ai voulu raconter une histoire, l'histoire d'un homme qui se retrouve tout à coup, en quelques semaines, passant du rôle de héros absolu,
généreux,
admiré, courtisé, à celui de quelqu'un sur lequel tout le pays se met à cracher.
Puisque même on ne veut plus accepter l'argent de ses fondations, je crois.
Alors, voilà, tout à coup, les gens lui tournent le dos, même pour ses dons. Quel est le sens du don ? Est-ce qu'il peut y avoir des dons qui soient parfaitement désintéressés ? Est-ce que lorsqu'on sourit à quelqu'un, est-ce que ce sourire ne vient pas avec une petite facture ?
Et là, c'est le problème du mécénat que vous posez quelque part.
C'est exactement le problème du mécénat, mais c'est le problème de tout le monde. C'est-à-dire, lorsque l'on sourit à quelqu'un et que ce quelqu'un ne vous sourit pas en retour, on lui en veut. Si je rentre dans un magasin et que je dis bonjour, bonjour madame, et que la vendeuse pousse la tête, c'est sûr que je lui en veux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Vous n'allez pas acheter.
Non, ça ne veut pas dire « non, je vais probablement acheter ». Ça veut dire simplement que mon sourire n'était pas désintéressé. Il
parce
attendait
que vous attendiez
chose.
Un retour.
Absolument.
Oui. Alors revenons à votre héros, si je puis dire. En le lisant, ça m'a fait beaucoup penser à une histoire réelle, qui est celle de Wado Hampin. Wado Hampin était ce jeune belge dans les années 80, je dis bien, qui était propriétaire de l'Atome en France, donc un grand homme d'affaires, héritier d'une belle fortune, baron de son état, très séducteur. Il a été enlevé un beau matin. Et lorsque la police a commencé à fouiller sa vie, et c'est un peu l'histoire aussi que vous décrivez, on a découvert, je dirais, la face cachée, le joueur, l'homme infidèle, etc.
Oui, là, je pense que c'est quand même assez différent, dans le sens où, d'ailleurs je cite l'affaire Hampin dans le livre, la police le cite, un des policiers en parle, le problème du rapt Hampin, c'était un rapt classique. Les gens voulaient de l'argent. C'était un riche, il voulait de l'argent.
Non. On pense aujourd'hui que c'était un rapt politique.
On pense, mais je crois qu'en fait, c'était un rapt tout à fait crapuleux.
En apparence.
Il n'y avait pas une volonté de règlement de compte, je crois, au-delà de questions vénales. Là, dans le cas de Juliette dans son bain, je ne vais pas révéler.
Non.
Mais les gens qui ont fait l'enlèvement de sa fille Lara Candiotis avaient deux motifs totalement en télescopage. Le premier était de mettre cet homme sur les genoux, moralement. Et le second était de nature totalement différente, mais je ne veux pas le révéler.
Non, il faut laisser vos lecteurs le découvrir.
Totalement différente, et on peut même se poser la question, est-ce que ce n'était pas contradictoire ? Et là, je pense très souvent à cette phrase que me disait Madame Hersch, la philosophe avec laquelle j'ai découvert la philosophie assez tard dans ma vie. Elle me disait toujours, quand vous vous occupez de conditions humaines, et que vous butez sur un paradoxe, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc ma fin, elle est paradoxale, elle n'est pas contradictoire, alors qu'elle était, je crois, dans le cas du baron Hampin, monodimensionnelle. On ne sait pas ce qu'elle était, mais elle était monodimensionnelle. Dans ce cas-là, il y a quelque chose de très trouble. Mais voilà, j'arrête.
On va laisser vos lecteurs le découvrir. Donc, je rappelle que vous venez d'écrire, c'est sorti en janvier, Juliette dans son bain aux éditions Grasset, et que vous avez aussi écrit beaucoup d'autres livres qu'il conviendrait de lire ou de relire. Merci beaucoup, Metin Arditi, d'être venu nous parler de Juliette dans son bain, mais aussi d'avoir dévoilé le personnage extraordinaire que vous êtes. Encore une fois, je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça, vous êtes d'une grande modestie, mais vous êtes un immense personnage et nos auditeurs vont le découvrir s'ils ne vous connaissent pas déjà.
Vous me faites rougir, merci.
À bientôt, Metin. Et je remercie aussi, bien sûr, Alexandre Jean-Renaud, qui nous a enregistré aujourd'hui et qui va monter l'émission. À bientôt.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.